va aujourd'hui terminer le petit livre de Jonas. Jonas, chapitre 4. Je vous invite à vous y tourner dans vos Bibles. Si vous avez besoin d'une Bible, levez la main et on vous en amènera une. Je vais lire dans la version second 21. Jonas le prit très mal et fut irrité. Ça fait allusion au fait que Ninive, il y a eu un réveil à Ninive, la capitale assyrienne, détestée par les Juifs et par Jonas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce petit livre de Jonas, petit par son volume en phrases et dans ce récit, Seigneur, et pourtant ce livre tellement important. Aide-nous à en saisir vraiment toute l'importance aujourd'hui. Merci parce que tu nous as confié ta parole qui est la vérité sur laquelle nous pouvons fonder nos vies, Seigneur. Elle est solide comme le roc, Seigneur. Et là, tu veux nous montrer encore des choses. Tu veux nous parler, Seigneur. Aide-nous à être ouverts, Seigneur, à ce que tu as pour chacun de nous. Aide-nous à être attentif à ta parole, Seigneur, à la recevoir telle que tu veux que nous la recevions. Merci parce que c'est ton Esprit Saint qui l'a inspiré, et c'est ce même Esprit Saint qui peut, en quelque sorte, la débloquer pour nos intellects et surtout pour nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous, sois glorifié. Ce matin, nous te remettons notre Église, Seigneur, nous te remettons les enfants qui sont instruits maintenant par des moniteurs. Te remettons les autres églises de cette ville qui t'adorent en esprit et en vérité. Parle-leur, parle par leurs enseignants ce matin. Que ton nom soit glorifié dans cette ville, dans ce pays. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques années, nous avions un jeune interne qui venait des États-Unis. Et nous avions eu l'occasion d'aller en Allemagne pour célébrer le mariage de quelqu'un qui était dans l'assemblée pendant l'année, qui s'était marié pendant l'été en Allemagne. Et au retour de ce voyage en Allemagne, nous étions passés dans une petite ville en Suisse, la petite ville de Splugen, pour ceux qui connaîtraient. C'est une passe de montagne, un col de montagne, le col de Splugen. Il faut monter sur une petite rue qui circule, mais c'est un paysage de toute beauté. Et Noah, qui était avec nous, donc cet interne, qui était avec nous dans la voiture, était absolument tombé amoureux de cet endroit. Et il avait dit, en fait, Splugen a besoin de l'évangile et Noah a besoin de Splugen. Pour dire qu'il aurait aimé se sentir appelé à venir annoncer l'évangile dans cet petit village de montagne de toute beauté. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Suisse, mais la Suisse, c'est le pays où il y a même de l'herbe qui pousse sur les rochers. Tout est vert, tout est resplendissant, surtout en été. Et donc, on avait gardé cette expression, Splugen a besoin de l'évangile et Noah a besoin de Splugen. En fait, on pourrait transposer ça et dire que Jonas avait autant besoin de Ninive que Ninive avait besoin de Jonas. Le chapitre que nous venons de lire, s'il ne tenait qu'à nous, s'il n'était pas inspiré par l'Esprit-Saint, nous ne l'aurions pas écrit. Le petit livre s'arrêterait au chapitre 3 avec un merveilleux succès missionnaire, un prophète récalcitrant qui va quand même finir par annoncer la destruction de Ninive, la grande ville, en disant dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais pendant ces 40 jours, l'Esprit de Dieu agit et la repentance des Ninivites permet un grand réveil. Ils sont sauvés, toute la ville est sauvée. On a parlé de l'importance de la repentance et j'en profite pour m'excuser auprès de ceux que j'ai peut-être choqués les semaines précédentes en parlant un peu trop dans le détail des conditions de Jonas dans le ventre de la baleine. Alors c'est vrai que je n'ai pas de retenue spéciale pour parler de comment pouvait se passer la scène, mais je sais, certains me l'ont confié, que ça les a gênés. Et je m'en excuse parce que ce n'est pas mon intention de choquer. Mais surtout, je veux demander pardon à Dieu parce qu'en faisant ce genre de remarques, de choses, si je vous bloque, si je vous mets en colère contre ce que je peux dire, à ce moment-là, le reste du message, vous ne le recevez pas. Et la semaine dernière, le message, c'était pas sur les sucs gastriques et les algues. Le message, c'était sur la repentance, de l'importance de la repentance. Facile à se souvenir, l'importance de la repentance. Ça rime et c'est une grande réalité. Et donc, on a parlé. Je vous invite à écouter le message et à sauter les passages qui vous gêneraient, mais à vous concentrer sur le message que Dieu est un Dieu de seconde chance, et qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, et ça se passe en passant par la repentance. Je disais donc, oui, nous on serait restés sur ce merveilleux résultat missionnaire, une ville de... Alors là, la version que je viens de lire parle d'une population de 120 000 habitants, 120 000 êtres humains, Certains pensent en fait que l'expression qui est vraiment utilisée, 120 000 personnes qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche, ça désigne en fait des enfants. Et si on regarde dans le Deutéronome, au chapitre 1, il est question des enfants qui ne connaissent pas le mal du bien, qui ne savent pas faire la différence. Peu importe, si c'est seulement les enfants, on peut penser que la population, c'était plutôt 600 000 personnes, voire 1 million de personnes. Si c'était que 120 000 personnes, c'était quand même le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Une ville entière qui est sauvée. Et on serait très heureux de dire, voilà, c'est la fin de l'histoire. Dieu a envoyé un message par un messager qui avait du mal à donner son message. Et on a sauvé toute la ville de Ninive. Vous allez entendre beaucoup parler de Ninive ces jours-ci, pas sous le nom de Ninive, mais sur la ville de Mossoul. Je l'ai répété, je le répète encore, parce que c'est bon de savoir pour ceux qui ne l'ont pas entendu. La ville de Mossoul, c'est à peu près là où se trouvait Ninive. Et en ce moment, la coalition est en train de préparer une attaque contre Daesh, qui occupe cette ville depuis juin 2014. Il y a à peu près 2 millions d'habitants, et tout le monde sait que ça va être un combat terrible. Il va probablement y avoir 700 000 personnes qui vont être évacuées, ou pas évacuées, mais qui vont émigrer, qui vont venir frapper à la porte de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible, elle est toujours d'actualité. Là, on voit en fait que si ça avait continué, ce serait merveilleux. Il n'y aurait pas d'islam à Mossoul. Il y aurait des chrétiens convaincus, mais... Ce qui fait que Dieu écrit un quatrième chapitre, c'est parce que Jonas a besoin de Ninive. Jonas a besoin d'être transformé. Ça, c'est une caractéristique, quelque chose que vous pouvez écrire. Dieu est souvent plus intéressé par le travail qu'il peut faire dans l'ouvrier que par le travail que peut faire l'ouvrier. Nous sommes toujours préoccupés de ce que nous allons accomplir pour Dieu ou pour d'autres choses. Dieu, il veut s'assurer que son œuvre est faite dans nos cœurs. Nous avons un système de priorité qui est affecté par la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, par le péché. Et nous sommes prêts à même à faire des compromis dans l'idée de faire avancer l'Évangile à tout prix. Dieu veut que nous fassions son œuvre, que nous fassions sa volonté. Il nous dit dans Éphésiens, de tout notre cœur. Si le cœur n'y est pas, Dieu n'est pas tellement intéressé par les résultats. Alors c'est très bien pour toute cette population de cette grande ville qui ont été sauvées. Mais Dieu, il va chercher la centième brebis. Il voudrait pas que Jonas reste dans un état de péché. J'ai quelquefois dû remplir des questionnaires que des organisations missionnaires m'envoient, parce que certains d'entre vous se proposent ou approchent une organisation missionnaire ou un ministère pour servir. Alors ça peut être un service assez bref, comme 2 semaines en mission quelque part, ou plus longtemps, 3 semaines, 1 an, ou des gens qui veulent s'inscrire dans des écoles bibliques. Et l'institution, l'école, l'église, la mission m'envoient un questionnaire auquel je dois répondre rapidement toujours, pour qu'ils puissent décider en connaissance de cause s'ils doivent ou pas recevoir la personne, l'incorporer dans leur rang. Dieu ne veut pas laisser le prophète boudé sans le reprendre. Ce passage de Jonas m'a toujours un peu surpris. On voit après ce réveil, on pense que Jonas devrait se réduire, mais Dieu doit envoyer plusieurs choses. Il doit envoyer une plante, un ver et un vent chaud. Une vigne, un ver et un vent chaud. Pour ramener Jonas, entre guillemets, à la raison et comprendre un peu mieux les motivations de Dieu. Ce livre, en effet, parle de Jonas, mais il parle encore plus du caractère de Dieu. Il nous montre le Dieu que nous servons, quel est son cœur. Et inspiré par un commentateur que j'aime beaucoup, Warren Wiersbe, j'aimerais qu'ensemble nous imaginions que Jonas soit un candidat missionnaire et qu'il doive passer un entretien avec le comité de sélection. Généralement, on fait appel à trois choses. D'abord, les références, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. On demande l'avis des pasteurs, des amis, des compagnons. Et puis on prie parce qu'on veut avoir l'avis de Dieu sur la personne. Alors voilà quelques-unes des questions qui seraient posées à Jonas. Première question, Jonas, vous sentez-vous appelé par Dieu? Dieu vous a-t-il vraiment appelé? Ah oui, deux fois. La parole de l'Éternel m'a été adressée au verset 1 du chapitre 1 et au verset 1 du chapitre 3. Lève-toi, va à Ninive, lève-toi, va à Ninive. D'accord. Jonas, est-ce que votre théologie est vraiment biblique? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce que vous avez été influencé par des mouvements un peu sectaires ou est-ce que vous êtes vraiment évangélique? Ah ça oui, non, je crois en Dieu. Un Dieu qui est un Dieu de grâce et de compassion, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui regrette le mal qu'il envoie. C'est ce qu'il a déclaré dans le deuxième verset du chapitre 4 que nous avons lu. Il a même affirmé qu'il croyait que le salut vient de l'Éternel, verset 10 du chapitre 2. Rien à dire sur sa théologie. Le comité continue, alors c'est à tour de rôle, il y en a un qui lui dit « Ok Jonas, c'est très bien, vous avez un appel de Dieu, votre théologie a l'air très correcte. Jonas, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous priez ?» Nous sommes tous en mission, donc pensez que ces questions, on peut vous les poser, entre parenthèses. « Est-ce que vous priez ?» Et Jonas de répondre « Si je prie, chose est sûre, je peux vous assurer que j'ai prié dans des endroits très bizarres. » On se souvient qu'il avait prié en étant englouti par la baleine ou par le grand poisson. D'accord, vous priez. Jonas, une question plus importante peut-être, c'est est-ce que Dieu exauce vos prières? Si Dieu exauce mes prières, waouh! Vraiment, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé à Ninive. Le comité serait très heureux d'apprendre ce grand réveil, de voir que Jonas d'abord a été sauvé de la baleine, il avait prié, et il serait satisfait de ce point de vue-là. Sur chaque comité, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus spirituel que les autres. Quelqu'un d'un peu mystique, quelqu'un qui cherche la vie plus profonde avec Dieu. En anglais, on parle de « the deeper life », la vie vraiment intime avec Dieu. Jonas, la personne lui demande « Est-ce que vous avez fait l'expérience de la vie profonde ?» Et Jonas, bien sûr, va répondre, personne n'est allé plus en profondeur que moi. J'ai été tout en bas, jusqu'aux racines des montagnes, c'est l'expression qu'il utilise. Je sais que ce que c'est que mourir et que de revenir en nouveauté de vie, je sais vraiment ce que c'est que la vie profonde. Formidable, le comité est impressionné. Il continue en disant, vous avez déjà prêché ? Oui, oui, j'ai prêché, plus d'une fois. Est-ce que votre prédication porte du fruit ? Et c'est là qu'il leur dit, il y a près de des centaines de milliers de personnes se sont repenties. Tout le monde s'est converti dans la ville. Même les animaux. Vous vous souvenez que les animaux se repentaient, on leur mettait des vêtements de deuil en signe de repentance. Remarquable. Puis il y a toujours quelqu'un aussi qui demande, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous connaissez vraiment la Bible ? Est-ce que vous connaissez des versets par cœur ? Est-ce que vous pouvez citer des passages de mémoire ? Et Jonas, on l'a vu, dit bien sûr, lorsqu'il dit que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, etc., il est en train de citer Moïse dans l'Exode 34:6. On a vu que dans le passage de dans sa prière dans le ventre du poisson, il enchaînait en fait des morceaux de passages, des psaumes. Il connaissait les psaumes, il connaissait la loi, il connaissait la parole. Il avait mémorisé des versets par cœur. Est-ce que nous le faisons ? Toujours. On l'a peut-être fait à une certaine époque de notre vie, et puis maintenant, on ne fait plus cet effort, et on s'étonne qu'on a du mal à se rappeler certains versets qu'on connaissait tout de suite. Ce n'est pas le problème de Jonas. Une dernière question, quelqu'un lui demande, « Jonas, avez-vous du courage ?» Parce qu'être missionnaire, je vous assure que ça prend beaucoup de courage. Il va y avoir des attaques, il va y avoir des mensonges qui seront proférés contre vous, il va y avoir des difficultés physiques, vous serez peut-être persécuté. Est-ce que vous avez du courage ? Du courage ? Oui, j'ai du courage. J'ai même dit aux marins qu'ils pouvaient me jeter dans l'eau, que j'étais prêt à mourir pour eux. Et donc, c'est la fin de l'entretien. « Ok, monsieur Jonas, nous vous remercions. Vous pouvez vous retirer, nous allons délibérer, nous vous ferons savoir notre décision dans quelques jours. » Et les membres du comité se retrouvent entre eux et sont tous le grand sourire en disant « Waouh, c'est vraiment le meilleur candidat qu'on n'a jamais interviewé. » Il est appelé par Dieu, il a une théologie saine et correcte, il obtient des réponses à ses prières, il sait ce que c'est que mourir à soi-même, il sait prêcher et sa prédication est fructueuse. Il peut citer la parole de mémoire, c'est un homme courageux. Et en plus, il sait ce que c'est que la vie profonde avec Dieu. On l'embauche tout de suite, non ? Il est exactement le candidat que nous cherchons. Et pourtant, je viens de vous dire que Dieu a écrit le 4e chapitre pour nous montrer que Jonas est un échec spirituel. On le retrouve donc après le merveilleux réveil, le merveilleux résultat de ces milliers de personnes qui viennent au Seigneur. Il va s'asseoir en dehors de la ville et il est plein de colère, il est irrité. Il est plein d'amertume devant tous ces gens qui se sont convertis, il boude. Encore une fois, nous avons une vision des choses qui est différente de celle de Dieu. Nous mesurons les choses à ce que nous croyons être des standards valides. Mais les questions du comité montrent qu'ils n'ont pas posé la question la plus importante. La question qu'ils ont oublié de poser, c'est « Est-ce que vous aimez les gens que vous allez servir ?» Est-ce que nous aimons les gens que nous voulons servir ? Alors tout de suite, on me dira « Mais c'est pas nécessaire. Regardez le résultat de Jonas. Il ne pouvait pas voir les Ninivites et pourtant, finalement, il a dit le message de Dieu et il y a eu un résultat fantastique. Mais encore une fois, Dieu se préoccupe des Ninivites, mais Dieu se préoccupe tout autant de moi et de vous et de Jonas, personnellement. Si on n'aime pas, si on n'a pas de l'amour pour les autres, pour ceux qu'on veut servir, Paul l'a très bien dit dans 1 Corinthiens 13, s'il n'y a pas d'amour, tout ce qu'on fait est vain. S'il n'y a pas la motivation de l'amour, de compassion, si on ne montre pas de la grâce aux autres, on peut avoir été appelé 50 fois, on peut connaître des passages entiers de la Bible, mais on est un échec vis-à-vis de Dieu. Dans notre relation avec lui, on peut avoir une bonne théologie, mais une mauvaise attitude. D'ailleurs, si on demande aux personnes qui l'ont côtoyé, on a demandé des questions à la personne elle-même. Maintenant, on peut demander des questions au pasteur ou aux gens qui ont été en contact avec Jonas. Les marins vont dire, c'est un fauteur de troubles. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il monte sur notre bateau. Et là, ça a été la tempête. Et en plus, pendant la tempête, nous, on priait nos dieux, nos petits dieux, on ne connaissait pas le grand dieu de Jonas. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait. Il dormait au fond de la cale. Et vous voulez l'envoyer comme missionnaire ? Vous savez qu'un missionnaire, il est un peu livré à lui-même et que s'il n'est pas animé par une foi et un zèle réel, il peut passer son temps à dormir, à prendre des photos de gens sur la promenade des Anglais, en faisant penser aux gens qu'il est très actif auprès des non-croyants. On a même dû tirer au sort pour savoir qui était le responsable de nos problèmes. Et vous voulez l'envoyer sur le champ de mission alors qu'on est presque mort par sa faute ? Il y a deux façons d'être une source de problème. On peut être une source de problème en dehors de la volonté de Dieu. Comme David, qui a péché, comme vous le savez. Comme Abraham, qui mentait pour préserver sa vie. Comme Jonas. Ou bien on peut être une source de problème dans la volonté de Dieu. Comme Jésus, comme Paul, lui partout où il allait, on disait que c'était soit la révolution, soit le réveil. Mais il était actif. Il était dans la volonté de Dieu et causait des problèmes, mais au moins il faisait la volonté de Dieu. Si on parlait au grand poisson, qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Jonas ? Mais j'avais du mal à avaler son comportement. Et une chose que je peux vous dire, c'est que c'est un homme têtu. Il a désobéi à Dieu. Il a fallu 3 jours avant et 3 nuits avant qu'il ne se repente. C'est un homme têtu. Les gens de Ninive, écoutez, lui, Jonas, c'est vraiment un drôle de type. Hein. Il a prêché, repentez-vous, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il nous a fichu les jetons. On s'est repenti, pardon pour la familiarité de l'expression, il nous avait vraiment fait peur. 40 jours, Ninive sera détruite. En fait, il est venu nous sauver, pour ça on l'aime bien. Il est venu comme un ambassadeur de Dieu. Mais une chose qui nous a choqué, c'est qu'après qu'on soit venu à son Dieu, lui, il est parti tout seul dans son coin. Il devrait être avec nous. On pensait qu'il aurait été avec nous pour nous enseigner, pour faire du travail de suite, pour nous donner des cours de disciples, pour nous apprendre à mémoriser certains versets. Mais non, il est allé sous sa petite guérite. Là, il s'est construit un petit abri. Il a regardé la scène. On avait vraiment l'impression qu'il aurait été plus heureux si on s'était tous retrouvés en enfer. Encore une fois, on l'aime bien parce qu'il a fait de belles choses pour nous, mais on a du mal à le comprendre. Si on va voir le petit ver qui a causé la plante qui avait poussé, tu connais Jonas ? Oui ? Et qu'est-ce que tu penses de lui ? Il est immature. Il est comme un enfant. Parce qu'il vit en fonction de ses sentiments, pas par l'obéissance à Dieu. Il boude, il est en colère. Il est en colère contre Dieu. Le terme qui était utilisé lorsqu'il est dit qu'il est... Il est irrité, Jonas le prit très mal, le salut des Ninivites, et il fut irrité. C'est un mot qui veut dire une irritation très forte. Il est échauffé, ça se voit vraiment qu'il est en colère. Il est en colère. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère ? Jonas, qui est en colère, fait 3 choses que les personnes qui sont en colère font toujours. Que ce soit au travail, que ce soit dans une entreprise humaine, que ce soit dans un projet humain, que ce soit même dans l'Église, les gens en colère font 3 choses. La première chose, c'est qu'ils abandonnent, ils quittent, ils claquent la porte. Deuxième chose, les gens en colère s'isolent. Ils vont dans leur coin. Ils ne veulent plus avoir de relations. Des fois qu'ils aient à changer leur point de vue et à reconnaître qu'ils ont peut-être mal jugé, les gens en colère s'isolent. Et les autres ne cherchent pas trop à les rattraper parce que quand on est en colère, on est pénible. Il y a des gens qui sont comme ça, toujours en colère. Et on les tient un peu à distance. Et je suis sûr que vous pouvez penser à des personnes dans votre entourage qui font ça. Et le troisième point, c'est que ces gens en colère, au lieu de s'investir et d'agir, ils deviennent des spectateurs. Attendant que l'autre prenne une gamelle terrible. 3 choses. Si vous voyez dans votre cœur que vous avez envie de quitter, d'abandonner, que vous vous isolez et que vous voulez voir les choses en spectateur, attention, il y a peut-être de la colère dans votre cœur. Si vous voyez une personne qui présente ces 3 symptômes, parlez-leur. Jonas Le vers dit que oui, il est en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il voulait. Il voulait que les Ninivites, les habitants de Ninive, soient détruits parce que c'est un peuple sauvage, c'est un peuple cruel. Il a des préjugés, Jonas. Il est raciste. Il sait que l'Assyrie, c'est un ennemi d'Israël et il veut privilégier le patriotisme. Il n'a pas de cœur pour ceux qui sont loin de Dieu. Il n'a pas un fardeau pour ceux qui sont perdus loin de Dieu. Mais Dieu est différent de Jonas. Et Jonas le savait. Il savait que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui est lent à la colère. Jonas, lui, il était prompt à la colère. Ça se déclenchait très rapidement. Il est en colère contre Dieu. Il ne montre aucune gentillesse envers eux. La repentance qu'il avait exprimée dans le ventre du poisson, il l'a oubliée. Mais Dieu ne veut pas l'abandonner à cette colère, à ces mauvais sentiments, à cette mauvaise attitude. Dieu veut lui montrer qu'en fait, il a des mauvaises priorités. Qu'est-ce que Jonas recherche ? C'est son propre confort. Est-ce qu'il vous arrive de privilégier votre confort au besoin de salut des autres, au besoin d'encouragement des autres ? J'ai un voisin dans notre quartier, c'est un ancien légionnaire d'origine italienne qui aime bien discuter dans la rue, avec qui j'ai souvent parlé, mais qui n'est pas ouvert à Dieu, qui pense que tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, de toute façon, il n'est pas là. Et j'essaye toujours un peu de l'encourager, de lui dire non, il y a un Dieu d'amour, le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que les hommes l'ont rendu, mais c'est un homme têtu aussi. Il y a quelques mois, il a dû prendre une chaise roulante pour se déplacer. Il y a des problèmes de muscles. Et pendant plusieurs mois, je ne l'ai pas vu. J'aurais pu aller prendre des nouvelles de lui. J'ai parlé de lui à d'autres voisins qui m'ont dit qu'effectivement, il pouvait pas se déplacer, mais qu'il avait une chaise roulante maintenant, qu'il devait bientôt ressortir. Et l'autre jour, je revenais de course en vélo, je rentrais par le garage. Et au dernier moment, j'ai vu qu'il était au bout de la rue dans sa chaise roulante. Et j'avais quelque chose de très urgent à faire. Et je me suis dit, peut-être je sais que je devrais aller lui parler, mais j'ai vraiment pas le temps, Seigneur. Et donc, je suis honteux d'admettre que, bien que j'ai senti que le Seigneur me demandait d'aller lui parler, j'ai dit non. J'ai fait mon petit Jonas. Va parler à cet homme. Ah, j'ai trop de choses à faire, et puis tu sais, il ne t'aime pas, de toute façon. J'ai pas fait un raisonnement aussi long, mais je savais que c'était pas la. J'ai pris le mauvais choix. Donc il va falloir que je me repente et que j'aille passer un peu de temps avec lui. Mais ce qui m'a frappé, c'est que hier après-midi, Nancy me dit « Tiens, j'ai longuement parlé à Dino. » Elle l'avait rencontré et elle a pris le temps de lui parler et de l'encourager. Mais souvent, parce qu'on cherche notre propre confort, malheureusement j'aurai d'autres histoires à raconter. que certains d'entre vous ont déjà entendu. Ce qui comptait le plus pour lui, après cette colère où il était déjà chaud, il avait le soleil qui brillait, il voulait être un peu rafraîchi. Donc cette plante qui a grandi, qui lui a procuré un peu d'ombre, c'est intéressant, là il est question d'une plante, peut-être dans d'autres versions ce sera un ricin, qui est un petit arbuste qui donne une noix purgative qui vous fait vomir. Parce que le mot en hébreu fait allusion à l'idée de rejeter quelque chose de l'estomac. Peu importe si c'est le ricin, l'huile de ricin est connue, ou peu, mais il est content. C'est la première fois dans le livre qu'il est content. Verset 6, Jonas éprouva une grande joie. Pas parce qu'il y a eu un réveil, non, à cause de cette plante. Ah ! Et Dieu fait intervenir, c'est Dieu qui est maître dans tout ça. C'est Dieu qui a envoyé la tempête, c'est Dieu qui a envoyé le grand poisson, c'est Dieu qui a donné l'ordre au poisson de recracher Jonas. C'est Dieu qui fait pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas, mais c'est Dieu aussi qui envoie un ver pour qu'il ronge et détruise la plante. Et puis il envoie aussi un vent brûlant pour qu'il souffle sur Jonas, au point que Jonas, il dit « j'en peux plus, je veux mourir ». Et Dieu le reprend, lui dit « est-ce que tu fais bien de te mettre en colère ainsi ?» Il demande la mort, il vaut mieux mourir que vivre. Et Dieu reprend Jonas en lui disant « fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est la dernière parole connue de Jonas. Il persiste dans sa colère, il regrette le confort qu'il a perdu. Et c'est vrai que ce qui nous rend heureux, c'est un grand révélateur de notre caractère profond. Est-ce que je suis heureux quand on me parle de moi en bien ? Est-ce que je suis heureux quand je reçois des biens matériels ? Ou est-ce que je suis heureux quand je peux aider mon prochain ? Est-ce que je suis heureux quand je fais du bien autour de moi, quand je sacrifie un peu mon confort pour donner du confort aux autres? Ça parle davantage et ça doit nous éclairer davantage sur notre propre caractère que tout ce qu'on peut imaginer, vouloir entendre, etc. Et Dieu lui pose une question en lui disant « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, une chose insignifiante qui du jour au lendemain arrive et repart. Et tu es en colère contre moi parce que moi, j'ai du souci pour tous ces êtres humains qui ne connaissent pas le bien du mal. Tous ces êtres humains qui sont voués à passer l'éternité en enfer. Certains pensent que le passage de Jonas dans le ventre du poisson, cette chaleur intenable qu'il éprouve à la fin du récit, c'est un peu pour instruire Jonas sur ce que c'est que d'être sans Dieu, d'être voué à l'enfer pour l'éternité. C'est terrible. On a parlé des références de Jonas dans cet entretien, on a parlé du témoignage des voisins de Jonas, de ceux qui l'ont rencontré. Le témoignage le plus important, c'est celui que le comité a recherché dans la prière, c'est, si on peut se permettre de poser des questions, « Seigneur, est-ce que tu as appelé Jonas ?» Et Dieu dirait oui deux fois. Est-ce qu'il t'a obéi? Extérieurement, oui, mais intérieurement, non. Seigneur, qu'est-ce que tu penses faire avec Jonas? Il faut lui donner une autre chance. Il lui a donné une autre chance, comme il l'a fait avec bien d'autres personnages de la Bible. Dans ce petit livre, nous avons vu la présence, la providence de Dieu au chapitre 1, le pardon de Dieu au chapitre 2. Au chapitre 3, nous voyons la puissance de Dieu. L'obéissance mène à des résultats fantastiques. Et dans ce chapitre 4, on voit la pitié de Dieu, la compassion. Tu voudrais que je n'aie pas pitié de Ninive ? Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que Jonas soit transformé. Il lui pose cette question et on n'a pas la réponse. Il n'y a pas de verset 12. On dit qu'à la chapelle Sixtine, il y a une représentation par Michel-Ange de Jonas qui est tout sourire. Et certains veulent voir là la conviction que Jonas est revenu à lui-même et qu'il a réalisé qu'il s'est repenti, mais la Bible ne nous le dit pas. Ça nous rappelle Jésus qui demandait à Pierre, après la trahison de Pierre, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est « Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ?» C'est déjà bien. Mais est-ce que le cœur y est? Est-ce que nous la faisons de tout notre cœur, au prix de notre propre confort, au prix de notre propre petite personne? C'est le message de Jonas. Jonas est un livre d'une importance insoupçonnée. Je dis ça parce que la semaine dernière, James Lowen m'a remis un petit commentaire sur le livre de Jonas, fait par un missionnaire sur un blog, et dans lequel cet auteur dit « Le livre de Jonas est un livre critique pour le corps de Christ aujourd'hui. » Je ne vais pas tout lire, mais l'idée c'est qu'on doit être délivrés de nos mauvaises façons de penser de Dieu, de nous-mêmes et des non-chrétiens. Il dit d'abord, c'est important de ne pas se demander si on peut avoir un poisson assez grand, ça c'est des questions de circonstances, peu importe, Dieu peut faire des miracles. Mais le livre de Jonas, c'est comme le scalpel du Saint-Esprit pour enlever nos fausses façons de considérer Dieu, son Église et le monde. Et quelque chose de plus important, il cite quelqu'un d'autre qui dit que notre attitude envers ce petit livre révèle nous notre attitude envers Dieu et sa parole. Si on commence à dire non, c'est pas possible, il n'y a pas de poisson assez grand, et on passe à côté du message de Jonas. On voit les deux priorités dans le cœur de Dieu, rendre les croyants semblables à son précieux fils Jésus. Ça, c'est le but. Et puis, il veut aussi restaurer un monde brisé qui souffre. Mais il n'oublie pas qu'il veut nous rendre semblables à Christ. Et Christ, quand il est venu, il a embrassé son ministère, il nous aimait, il a tant aimé le monde que Jésus a été envoyé, mais Dieu nous a aimés. Dieu nous aime, Dieu vous aime, aujourd'hui encore. Et il est très important aussi de voir qu'à travers son alliance avec Abraham, Dieu veut bénir tous les peuples de la terre. Soit on vit pour soi-même, soit en vie pour les autres, avec le désir d'accomplir la bénédiction de Dieu. Et un peu comme Jonas, quand on voit Dieu qui inclut des gens qu'on exclurait, on montre qu'on a une tendance à être des gens exclusifs. Les musulmans, Daesh, les djihadistes, alors là, hein, ils ont ce qu'ils méritent s'ils sont détruits. Mais ce petit livre, j'espère que, même si j'ai été maladroit des fois en présentant des aspects physiques ou que je trouvais un peu humour, sur lequel on pouvait faire de l'humour, c'est un livre très sérieux. C'est le livre de l'amour de Dieu pour tous les hommes et l'amour de Dieu pour chaque homme en particulier. On a du mal à réconcilier ces deux choses. Parce que nous sommes limités. Et si on donne de l'amour à quelqu'un, on pense qu'on en a moins pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc la question reste posée pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est normal que Dieu se soucie de sauver les habitants de Ninive ? Ceux qui sont cruels, ceux qui sont indignes d'entrer dans une église, qui ne connaissent pas la parole, qui... Non, Dieu t'aime et Dieu aime tous les hommes. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce petit livre de Jonas, qui souvent... évoque pour nous l'école du dimanche avec des images drôles de gens à l'intérieur d'un poisson comme dans Pinocchio de Walt Disney, Seigneur, mais merci de ce que par ton esprit tu veux nous parler, Seigneur. Et tu nous parles. Aide-nous à réfléchir à ce prophète récalcitrant, ce prophète qui ne voulait pas risquer le salut de gens qu'il n'aimait pas. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pour parler à des gens que nous n'aimons pas du salut qui est en toi. Seigneur, on voit comment tu fais ça tout au long de la Bible, de ta parole, Seigneur. On voit comment tu as pu transformer Saül en Paul, Seigneur. Lui qui respirait le feu contre les chrétiens, tu l'as fait tomber de cheval. Et tu lui as dit qu'il souffrirait de grandes choses pour accomplir ta volonté, celle de devenir le plus grand apôtre, l'auteur de près de la moitié du Nouveau Testament. Seigneur, nous sommes convaincus que parmi nous, tu veux agir. Tu veux agir en chacun de nous, Seigneur. Tu veux enlever tout préjugé de race, de classe, de sexe. Tu veux que nous soyons touchés par ta pitié, ton amour, et que nous montrions envers les autres la même grâce, la même compassion que celle que nous recevons de toi. Pardonne-moi lorsque je ne le fais pas. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre ton message d'amour, Seigneur, et à être transformés par lui. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous prions ces choses. Amen.